clairement, on n'avait pas envie d'attendre lundi prochain pour avoir l'avis de Daniel Habert sur l'actualité, notamment les négociations en cours ainsi que les conséquences en Occident de la guerre, notamment dans les universités. Voici donc Daniel Habert au micro, comme d'hab, de Blaise van der Linden.
Bonjour Daniel Habert.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka, comme chaque début de semaine. Aujourd'hui c'est mercredi, mais comme tous les matins à 7h15 en début de semaine, nous commençons cette matinale avec nos conversations en votre compagnie. Alors Daniel Habert, la tension de ces dernières semaines avec l'Iran a l'air d'être plutôt derrière nous pour l'instant. Aujourd'hui, dans quel contexte sommes-nous dans la reprise des activités à Gaza?
Oui, alors puisqu'on parle beaucoup de la guerre de Gaza maintenant et des otages, ça veut dire qu'on a passé une phase. Et cette phase qu'on vient de traverser, celle qui marque la période du 1er au 19 avril, qui a été un peu folle, hein, puisqu'il y avait le risque d'un embrasement et d'une guerre, a permis des clarifications que je voudrais rappeler, parce que si on comprend pas ces clarifications, on comprend pas ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et avec la question des otages. Il y a quatre clarifications qu'il faut mettre en avant. L'ennemi, c'est l'Iran. Et c'est pas seulement l'ennemi d'Israël, c'est l'ennemi de l'Occident et c'est l'ennemi des Arabes sunnites. On l'a vu, c'est clair, et il faut jamais l'oublier parce que c'est ça le plus important. La deuxième clarification, c'est que l'action du 7 octobre a été menée par le Hamas, en fait, pour mettre fin aux négociations entre Israël et l'Arabie Saoudite. C'était pour aider l'Iran à briser cet axe sunnite qui est en train de se constituer face à l'axe chiite que l'Iran a constitué depuis 30 ans. Mais que derrière cet objectif, le Hamas a réussi à obtenir, au fond, deux résultats qui sont bons pour lui. Le premier, c'est d'apparaître comme le véritable porte-parole des rêves et des objectifs des Palestiniens tout entiers. Et leur ambition et leur objectif est radical, hein. C'est probablement pas une solution à deux États qu'ils veulent, mais une solution à un seul État, le leur. Et la deuxième, évidemment, c'est de remettre la question palestinienne au centre, parce que ça apporte beaucoup de bénéfices sur le plan de la guerre de communication. La guerre de communication autour de l'Iran n'a pas de sens. Par contre, autour de la question palestinienne, de la cause palestinienne, ça c'est important. Et en particulier, cette cause palestinienne qui est évidemment populaire chez les Palestiniens et dans tout le Moyen-Orient, eux, ils en font une arme de communication en Occident. Et donc, ce qu'on a vu ces derniers jours, c'est une flambée dans les universités américaines, françaises et probablement d'autres, de protestations autour de la cause palestinienne. Et pourquoi est-ce que l'université est la cible? Parce que c'est une cible facile. Déjà, l'Occident est considéré par les islamistes comme un ventre mou. L'Europe, plus que les États-Unis, mais les universités, c'est un ventre mou dans un ventre mou, parce qu'il y a cette liberté d'expression, cette liberté économique qui empêche les dirigeants des universités de prendre des mesures fortes et d'essayer de composer. Et donc, une petite minorité peut arriver à faire beaucoup de bruit. Et ils y sont arrivés. Donc, c'est malheureusement fait. Alors, on ne sait pas trop qui manipule qui. Est-ce que ce sont les islamistes qui manipulent l'extrême gauche en Occident? Est-ce que c'est l'extrême gauche qui profite de cette remise en selle de la cause palestinienne, etc.? Alors, je pense que c'est une combinaison des deux. Il y a probablement derrière un troisième acteur qui sont les casseurs, ceux qui profitent des anarchistes, ceux qui profitent des crises pour tout casser. Et donc, une poignée de gens déterminés, soit à l'extrême gauche et islamistes, arrivent à entraîner avec eux des étudiants qui sont jeunes, qui manquent d'expérience, qui ont le cœur à la place de l'esprit. Ces mêmes étudiants qui soutenaient Staline, qui soutenaient Mao, qui ont soutenu Fidel Castro et Che Guevara, aujourd'hui, ils soutiennent le Hamas. C'est-à-dire que ces étudiants soutiennent les mauvaises causes. Et est-ce qu'il faut s'inquiéter de tout ça? Oui, mais en même temps, on voit bien que tout ça s'est ensuite transformé par la réalité. Donc voilà, ça c'est le deuxième contexte, qui est ce contexte de guerre de communication que malheureusement l'Occident a du mal à contenir. Le troisième contexte, c'est que les grandes puissances qui sont toutes intervenues ont manifesté leur souhait que tout ça ne se dégrade pas et qu'on n'aille pas vers l'escalade. Donc il y a une désescalade au Moyen-Orient, et ce qui fait que, si vous voulez, une guerre avec l'Iran, une opération avec le Hezbollah est plutôt derrière nous. Et donc on a pu se recentrer sur la guerre de Gaza. Et on a vu surtout que les grandes puissances, finalement, s'accordaient pour défendre l'existence d'Israël, mais l'empêcher d'attaquer. Donc chaque fois qu'Israël est attaqué, il est défendu. Voilà. Donc voilà. Et la dernière clarification, c'est qu'il y a un lien avec la guerre en Ukraine et que grâce à ce qui s'est passé, finalement, il y a eu un déblocage d'un grand package financier. Et vous savez que ce déblocage vise à aider trois pays, Israël bien sûr, mais aussi l'Ukraine et enfin Taïwan. Et on a mis tout ça dans un même paquet aux États-Unis. Pardon, et ça montre que les Américains ont pris en compte qu'ils ne peuvent pas se dégager de leurs obligations mondiales, ils ne peuvent pas se dire Europe et Moyen-Orient, c'est fini, ce qui nous intéresse, c'est que la Chine. Non, toutes les trois zones de tension qu'on rappelle à chaque fois, l'Europe, le Moyen-Orient et le Pacifique, sont au premier rang.
Alors, nous arrivons dans la fin de notre entretien. Déjà, le temps passe vite, Daniel Haber. Il nous reste de 4 minutes. Alors, où en est-on de la situation et de la question des otages? Et sous question, suivant votre réponse, où en est-on par rapport à la fin de la guerre?
Alors, je pense que cette pause qui est devant nous est fondée sur, au fond, un malentendu. C'est comme c'est souvent sur les malentendus qu'on arrive à trouver des accords. Le Hamas espère encore pouvoir rester à Gaza, même affaibli, en proposant une remise partielle d'otages qui serait suivie ensuite d'une négociation finale. Je rends tous les otages, mais je reste à Gaza. Ça, c'est l'option Hamas. Et l'option israélienne est tout à fait différente. C'est, bon, on fait une pause partielle, on récupère 33 otages, on libère beaucoup de gens, on fait une pause de plusieurs jours, mais on reprend. Et d'ailleurs, tout est fait pour montrer qu'on est très sérieux sur Rafah. On voit des tentes qui sont en train de s'installer tout près de Rafah, à Khan Younes, qui est pas très loin. Donc le mouvement de population d'un million de Gazaouis qui sont autour de Rafah seront transportés vers Khan Younes. Et les opérations à Gaza continuent. Il y a encore des morts du Hamas, et hélas, encore des morts israéliens. Et il y a aussi des bombardements, mais ce n'est pas des bombardements sur des zones habitées, c'est sur la frontière entre Gaza et l'Égypte. Il s'agit de détruire les tunnels de passage, c'est-à-dire de procéder au scellement de la frontière de Gaza avec l'Égypte. Donc ça veut dire que non, ce ne sera pas la fin de la guerre. Je pense qu'il y aura soit une opération à Gaza, soit les survivants et les dirigeants du Hamas rendront les derniers otages, qui sont des soldats, une négociation qui prendra encore beaucoup de temps et qui ne se fera que sous la menace d'une attaque de Rafah, et qui permettra aux survivants du Hamas de sortir de Gaza, mais soi-disant victorieux. Voilà, c'est un petit peu en train de ce qui se jouer, ce qui est en train de se jouer, avec toujours l'idée du Hamas qu'il peut profiter de la pression occidentale, américaine, les universités, etc., pour inciter Israël à changer d'ambition, mais je ne crois pas qu'Israël changera. Il restera ferme sur son objectif final, et qui est le seul jouable, d'ailleurs, on l'a dit à plusieurs reprises.
Eh bien, Daniel Haber, nous aurons évidemment l'occasion d'en reparler dans nos futures conversations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en ce jour peu habituel, en ce mercredi, mais on se retrouve dès mardi, car lundi, nous ne serons pas à l'antenne non plus.
Bon 1er mai, au revoir.